Nous sommes au chapitre 9. Ça, j'ai dit que ça allait faire partie du message. Ça va être pour notre introduction. On va voir d'autres textes à travers le message. Mais c'est le fondement du message ce matin. Donc, dans Jérémie au chapitre 9, je vais seulement relire les versets 23 à 26, donc la fin du chapitre. On va lire ensemble les versets 23 à 26. Man, il voulait l'entendre le message. Ou peut-être au contraire, il est content d'être délivré de ça. OK, verset 23. Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Seigneur, ta parole qu'on a devant les yeux, on désire y plonger les regards. Et Seigneur, on prie que tu nous ouvres les yeux pour qu'on contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, toi qui es le vrai enseignant ici ce matin, toi qui convainc, toi qui fais le vrai travail dans la vie de tes enfants, non seulement en ce moment alors qu'on s'assoit à tes pieds, mais Seigneur, c'est toi qui œuvres dans nos vies, c'est toi qui fais ce que juste toi peux faire. On vient à toi parce qu'on s'attend à toi. On veut pas juste commencer un message en disant une petite prière, on veut t'exprimer notre dépendance totale et absolue. On vient à toi comme n'ayant rien et comme toi étant notre tout. Parle-nous, on veut entendre ta voix. Merci que tu as pour chacun des choses sur mesure. Pour réconforter certains, en reprendre d'autres, en rediriger d'autres. Seigneur, merci que tu es le Dieu souverain et que tu es le Dieu aussi personnel. On continue de te prier, Seigneur, si quelqu'un ici n'a pas encore la vie qui est en Christ, la vraie vie, qu'aujourd'hui il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à ton royaume. Et pour tes enfants ici, Seigneur, qu'on ne soit pas indifférent, qu'on ne se trompe pas par des faux raisonnements, mais Seigneur, que tu puisses nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
L'intelligence de me connaître. On voit ça au verset 24. Celui qui veut se glorifier, hein, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ça, c'est par la foi. Paul parle de ce concept, si vous voulez, de la connaissance de Dieu. C'est pas l'idée de connaître des choses au sujet de Dieu, mais de le connaître personnellement. Lorsqu'il dit dans Philippiens 3:8, « Et moi, je regarde toute chose comme une perte. » Donc, Paul, hein, qui avait tout qu'un passé sur lequel il pouvait s'appuyer, humainement parlant, et toutes sortes d'exploits religieux, mais il dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » L'intelligence de connaître l'Éternel, c'est de connaître personnellement, d'avoir l'intelligence spirituelle de connaître Dieu par son Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et le prophète Jérémie, dans le texte qu'on a, et en fait, dans sa prophétie au complet, il voit de fortes dénonciations. Du fait que malgré que le peuple, spécialement dans les chapitres 9, parce que c'est sous le règne du roi Josias, le bon roi Josias, qui vraiment revenait à l'Éternel de tout son cœur, mais le peuple n'était que superficiel, n'était que dans l'externalisme et, je dirais même, dans l'opportunisme. Ils voulaient mettre Dieu de leur bord. On a un bon roi, ben ça va mettre Dieu de notre bord, mais nous, on va continuer à faire ce qu'on veut. Puis, on le voit dans la prophétie de Jérémie, il les dénonce comme étant des espérances trompeuses, comme en disant « le temple, hein, il se glorifiait de ça, puis il défait ces espérances-là trompeuses. » Et qu'est-ce que Dieu fait? L'essentiel du message du prophète, c'est que vous avez l'apparence, mais vous n'avez pas l'essentiel, la connaissance de l'Éternel, la relation avec lui, celle qui est par la foi, de marcher avec Dieu, la foi de se confier en l'Éternel. Et Dieu révèle la réalité des choses et du fait que, comme il le dit dans chapitre 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, que même s'ils avaient toutes ces réformes extérieures, leur cœur est encore bien éloigné de Dieu, malgré les apparences. Et le verdict est sans équivoque. Regardez dans chapitre 8, je vais juste vous lire quelques versets. Ben, tournez avec moi juste dans chapitre 8, à partir du verset... Du verset 4, que chacun se tienne en garde contre son ami, qu'on ne se fie pas à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, ils ne disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'appliquent à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Regardez verset 7, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. « Voici, je les sonderai et je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un très meurtrier, ils ne disent que des mensonges, de la bouche ils parlent de paix à leur prochain, au fond de leur cœur ils dressent des pièges. Ne les châtirai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel, ne vengerai-je pas d'une pareille nation? » Donc, le verdict de Dieu est clair. Dieu dénonce l'hypocrisie. Dieu dénonce le manque de réalité, de vérité dans leur relation avec lui. Et je pense que les parallèles à faire avec la situation actuelle du peuple de Dieu, et c'est sorti dans la prière, on prie pour notre peuple, le Québec, pour notre nation, le Canada, mais aussi pour le peuple de Dieu dans le Québec. Et je crois que les deux dernières années nous montre d'une façon claire qu'il y a des parallèles à faire avec la situation de l'époque, l'apparence et toutes sortes de choses, mais il manque la réalité, la connaissance de l'Éternel. Puis un parallèle aussi à faire avec une expression, connaissez-vous l'expression « le baume de Gilead » de Galaad, pardon, c'est en anglais, c'est Gilead, chapitre 8, verset 22, « N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? » C'est même ici, c'est une référence messianique, le baume de Galaad. Christ est celui qui est le baume des cœurs. Mais le prophète se plaint qu'à son époque, il n'avait pas ce baume-là. Et j'aimerais avancer le fait que dans notre époque actuelle, le peuple de Dieu, on doit se poser la question, où sont les chrétiens, les familles, les églises qui prodiguent les soins spirituels de Christ, notre tête? Où sont-ils? Par quelles mains Dieu peut opérer ses grâces rédemptrices en 2022? Des mains, là! Pas virtuelles, des personnes avec des personnes, puis être un baume! Un onguent, OK? Pour la grâce de Christ, nous sommes son corps. Comment Dieu peut opérer ce ministère de consolation, de guérison par son peuple? Mais c'est pas tout. Regardez aussi chapitre 9, verset 12. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dit, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? Un autre parallèle à faire entre les deux époques, celle de Jérémie puis la nôtre, c'est qu'il n'y a pas de prophète pour proclamer l'ainsi parle l'Éternel de l'Évangile de paix. Qui est-ce qui est là pour proclamer que Christ est Seigneur, qu'il est le Sauveur et que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation? Ici, il se posait la question, où est l'homme sage qui comprenne ces choses? On peut se poser la même question. Puis un autre parallèle, et ça devient plus effroyable, verset 25, qu'on a déjà lu en introduction, mais ça dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » Alors le peuple de Dieu, les Juifs qui étaient circoncis, mais pas de cœur, on sait que c'est une image hein, de la régénération. Et je crois que ce verset de Jérémie 9, 25, c'est l'équivalent de 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Le moment du jugement commence par la maison de Dieu. Dans les deux dernières années, le peuple de Dieu a été exposé. Son hypocrisie, sa mort, son manque de la vie de Christ en son sein. Dieu l'a révélé. Dieu, comme ici, il vient où il châtie les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Dieu enlève l'apparence et ce qu'on peut se cacher derrière. Dieu fait ça parmi son peuple. Et je crois qu'avec les versets qu'on connaît bien, que j'ai lus même avant l'offrande, puis les fameux versets de pas se glorifier de sa sagesse, sa force, sa richesse, mais se glorifier de connaître l'Éternel. Je crois que c'est ça l'explication biblique derrière le comportement et la réponse du peuple de Dieu avec ce que lui a envoyé depuis 2020. On s'entend que ce qui est arrivé, on peut dire, ah ben là, ça vient de la Chine, tout ça, puis ça serait l'explication humaine, mais ultimement, c'est qui règne, c'est qui a envoyé ça, c'est qui a permis tout ça? C'est notre Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est souverain, puis il règne sur les affaires des hommes? Amen. Dieu a permis ce qui est arrivé. Et je crois que la réponse du peuple de Dieu, malheureusement, en majorité, c'est caractérisé par l'absence d'intelligence à connaître Dieu, d'intelligence spirituelle dans les trois domaines qu'on va regarder dans le message avec le verset 23. Et c'est un peu dans le sens que, comme Christ l'a dit à ses disciples, êtes-vous encore sans intelligence? De ne pas comprendre les choses spirituelles, de ne pas avoir la perspective biblique de ce qui nous arrive, juste humainement. Je pense vraiment que c'est ça qui a fait que le peuple de Dieu s'est égaré, qu'il y a eu tellement de misère et de destruction parce qu'on n'a pas eu l'intelligence de connaître l'Éternel à travers ça. Et pour ceux que c'est différent, c'est parce qu'ils ont découvert Dieu comme ils l'avaient jamais connu avant. Je crois que l'œuvre de grâce qu'on voit dans cette église, c'est précisément à cause de ça. Dieu s'est révélé à nous, Dieu a fait quelque chose, ou est-ce que à travers toutes ces choses-là, cette calamité, Dieu a fait une œuvre de grâce extraordinaire. Puis j'aimerais souligner que ce que Dieu fait, tout le monde que le Seigneur amène, il a en commun de le chercher lui. OK, tout le monde est à différentes étapes de sa marche puis de tout ça, mais on voit ce désir-là, un peu comme dans Malachie, que ceux qui craignent l'Éternel et qui tremblent à ses paroles se parlent l'un à l'autre, ils se rassemblent. Puis il y a ce désir de connaître l'Éternel, de marcher avec lui. Et Dieu a fait une œuvre, beaucoup de révélations à travers les deux dernières années. Le thème de l'année, c'est le Dieu qui révèle. Et cette année, le thème, c'est Christ dans les Écritures. Et ce qu'on va voir à travers le message pour le thème du mois de février, c'est Christ, notre plénitude. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Ce qu'on va voir, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, a comblé tous nos besoins de sagesse, de force et de richesse. En lui, c'est notre héritage incorruptible, éternel, en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est ça qu'on va regarder simplement ensemble, trois provisions de Christ, la plénitude de notre intelligence. Trois provisions de Christ, la plénitude de notre intelligence. D'abord, tournez avec moi dans 1 Corinthiens et au chapitre 1. 1 Corinthiens au chapitre 1, Christ, la plénitude de notre sagesse. On va lire à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre. Un beau passage d'Écriture. Paul qui écrit à des Grecs qui cherchaient la sagesse. Les Juifs cherchaient des miracles, les Grecs cherchaient la sagesse. Et donc, Christ, la plénitude de notre sagesse. On commence avec le verset 20. Vous êtes là, 1 Corinthiens 1, 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, et ça c'est la citation de Jérémie 9, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Christ, la plénitude de notre sagesse. On a dans ce passage-là, si on regarde par exemple au verset 20, cette fameuse référence à la sagesse du monde, les Grecs hein, qui cherchaient la sagesse, c'est-à-dire l'ultime façon de comment faire de la raison de la vie, c'était des philosophes, c'était des gens qui voulaient comprendre les choses, ils cherchaient l'homme parfait, l'homme ultime. Paul leur présente comme étant Jésus-Christ. Il est l'ultime de tout. En fait, pour prendre une autre expression ailleurs, ça nous dit dans Colossiens 2:3 que en lui sont tous les trésors de la sagesse. Écoutez ce que ça dit dans Colossiens. Je vous lis les trois premiers versets de Colossiens 2. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Donc, vous savez, bon, ici, Paul répond à l'hérésie des Colossiens, ce qu'on appelle l'hérésie des Colossiens, c'est-à-dire, c'est, pour être bref, là, c'est comme une secte à mystique initiatique, où est-ce qu'il y a des mystères là-dedans, une connaissance mystique que juste un petit club élite connaisse, puis là, c'est par des initiations qu'on arrive à des nouveaux degrés de connaissance et tout ça, OK? C'était ça qui était naissant à l'époque là, du pré-gnosticisme, si vous voulez. Je ne veux pas trop être technique, là, mais l'idée, c'est ça. Gnostique, ça veut dire gnose, la connaissance, donc une connaissance mystique là, du club des élites. Quand tu connais ça, là, toi, tu as un accès à Dieu spécial. Okay? C'était ça l'idée de l'hérésie des Colossiens. Comment Paul répond à ça? Et c'est intéressant parce que c'est pas la seule place, mais Paul utilise leur langage. Il parlait de mystère. Je vais vous parler, vous autres, de mystère. Christ en lui, tous les mystères de la sagesse, de la connaissance, tout étant Jésus-Christ. Amen. Vous voulez parler de politique? Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Le Saint-Esprit prend le langage du monde puis il le sanctifie, il le prend pour lui le redéfinir. On voit ça beaucoup dans les Écritures. Tu sais, on parle de l'amour agapé. Ben, c'est parce que les chrétiens ont donné le sens christique à ce mot. Parce que les païens ne le connaissaient pas, là. Il y avait le mot agapé avant qu'il soit dans la Bible. Mais les chrétiens ont donné. Donc, je pense qu'on a là une sagesse, une façon de répondre. Vous savez que ça nous parle dans la Bible de la sagesse qui est d'en bas, puis de la sagesse qui est d'en haut. Et cette sagesse qui est d'en bas, elle n'a rien de bon. Elle peut avoir, ici on voit, hein, c'est juste une sagesse que, en fait, pour Dieu, c'est de la folie. Elle peut avoir une apparence de piété, mais cette sagesse, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Le verdict est clair, rien de bon avec ça. La sagesse qui vient d'en haut, au contraire, elle est bonne, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Ça, c'est la sagesse qui nous vient d'en haut. Et comment répondre à ce bruit, ce tumulte de la sagesse de ce monde qui veut essayer de toutes sortes de façons, comme je vous disais, qui veut nous amener une perspective, une vision du monde. On répond avec celle biblique. Juste essayer celle-là. Ah, on va parler de politique. Hein? C'est à cause des Chinois qu'on a tout ce qui nous arrive. Non, c'est parce que le roi des rois, le seigneur des seigneurs règne et c'est lui qui a envoyé cette calamité. On va vous dire, ça va peut-être changer la direction de la discussion politique que vous pourriez avoir avec votre collègue de travail. Mais c'est ça, prendre le parce que, je veux dire, c'est la réalité. Je veux dire, oui, on a des gens qui sont à Ottawa, qui nous représentent dans le Parlement, en tout cas, qui devraient nous représenter, là, qui le font pas, mais bon. Puis, on a la lumière de la parole là-dessus. Puis d'ailleurs, les apôtres, quand ils étaient persécutés au tout début du livre des Actes, ils ont cité la parole, là, il y avait ces gens-là avec Ponce Pilate et tout ça, puis ils disaient, pourquoi, ils citent le psaume 2, pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Il y avait la lumière de la parole, comprenez-vous? C'est ça la sagesse de Dieu, c'est qu'on comprend les choses à la lumière de la parole. On ne se laisse pas embarquer dans les choses humaines. Et là-dessus, un point important, l'Église de Jésus-Christ est rentrée dans le piège de la sagesse humaine. Un gros exemple de ça, on a dit que le plus grand danger de notre monde, c'est un virus. Alors que le plus grand danger de notre monde, c'est le péché, c'est l'enfer, c'est le fait d'avoir rejeté Dieu. C'est ça le plus grand danger. C'est ça la pire chose qui peut nous arriver. OK, c'est pas qu'on est indifférent, puis on dit, tant pis si on meurt d'un virus, mais je veux dire, on n'est pas accaparé par ça parce qu'on voit les choses à travers la lumière de la parole de Dieu qui nous donne une perspective éternelle, une perspective biblique sur ces choses. Amen. Et c'est comme ça qu'avec le bruit du monde, on répond avec la mélodie de Jésus-Christ. C'est harmonieux, c'est beau, c'est pas dissonant comme cette sagesse du monde. Donc, c'est la première chose. Christ, la plénitude de notre sagesse. On sait comment répondre à ce qui arrive, parce que Christ est notre sagesse, on a tout dans sa parole, son esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Maintenant, la deuxième provision de Christ, la plénitude de notre intelligence, non seulement Christ notre sagesse, mais Christ notre force. Et on a ça dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2. 2 Corinthiens 2, 2, on avance un peu dans nos Nouveaux Testaments. 2 Corinthiens 2, 2. On va lire à partir du verset 1, puis on va lire les 5 premiers versets. Alors, Paul ici, qui parle aux Corinthiens, dit « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. » Ayant en vous toute cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous écris, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. En fait, j'ai dit 2 Corinthiens, c'était 1 Corinthien. Ça n'avait pas rapport à la fin, voyons, coudon. 1 Corinthien. Oh, man. Juste un 1 puis un 2, c'est pas loin, hein. Je trouvais, c'est vraiment. Je voulais pas qu'on s'attriste à matin, là. Parce que ça n'a pas rapport avec Christ notre force. OK, ça, ça a plus de bon sens. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Car je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. That's more like it. Christ, la plénitude de notre force. Ça nous parle ici, il est pas allé avec les discours persuasifs, de la sagesse, puis le beau parleur, puis tout ça. Il est allé, lui, dans un état de faiblesse et de tremblement, mais avec la puissance de Dieu, parce que Christ était sa force. Et là-dessus, je veux juste amener un point. Savez-vous qu'il y a quelque chose d'un peu qui peut sembler paradoxal? La si grande puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu est quelque chose qu'il doit prier pour que Dieu lui ouvre les yeux sur cette puissance. Parce que Paul, lorsqu'il... Je n'ai pas pris ça de n'importe où, là. Paul, lorsqu'il prie pour les Éphésiens, il prie que Dieu illumine les yeux de leur cœur, OK, pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, toujours encore dans la même prière, d'ouvrir les yeux. Donc, que Dieu leur fasse qu'ils voient qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et la déployant en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Ça peut paraître bizarre, mais on ne reconnaît pas, on ne voit pas d'emblée comme ça une si grande puissance tant qu'on ne prie pas que Dieu, par son esprit, nous le fait réaliser, nous ouvre les yeux sur cette réalité. On dit, mais pourquoi c'est de même? Parce que Dieu l'a voulu ainsi pour nous pousser, nous contraindre à dépendre de lui. Justement, qu'on ne s'appuie pas sur notre sagesse et qu'on ne s'appuie pas sur notre force, mais qu'on le reconnaisse dans toutes nos voies, en s'appuyant sur lui et non pas sur nous-mêmes. Et Paul, dans sa prière, dans le fond, il prie qu'il se rende compte de tout cet héritage spirituel qui est relié à la mort de Christ, à sa résurrection, à son ascension, puis au fait qu'il est assis en autorité à la droite de Dieu dans les lieux célestes, que Dieu ouvre les yeux là-dessus. C'est ce qu'il prie dans Éphésiens, que vraiment cette grande réalité merveilleuse, qu'il soit saisi de ces choses, parce que c'est des choses qu'on peut savoir, mais quand on en est saisi, ça devient notre confiance, notre sécurité et notre force pour avancer contre vents et marées. C'est ça l'idée ici de Christ, notre force. Maintenant, les Éphésiens, pour lesquels Paul priait pour ça. C'est quand même spécial que Paul a prié ça pour les Éphésiens. Mais on perd du ça au fil du temps. On sait, hein, qu'est-ce que Paul, pas Paul, mais Jésus-Christ lui-même, dans Apocalypse au chapitre 2, en parlant à cette église d'Éphèse, il leur reproche d'avoir abandonné leur premier amour. Les Éphésiens avaient beaucoup de force en ce qui concerne la saine doctrine. Puis, Paul leur avait dit, veillez, parce qu'il y a des loups ravisseurs qui vont venir dans son adieu, dans le livre des Actes. Ils avaient bien écouté les avertissements de Paul en ce qui a trait à la saine doctrine, la vérité. Mais cette force même est devenue leur faiblesse dans le domaine le plus important, parce qu'il le précède. Ce qui précède la vérité, c'est l'amour. Ce qui donne la force à la vérité, c'est l'amour. La vérité dans l'amour. Si on a juste la vérité comme ça, pas d'amour, Paul le dit dans Corinthiens, on n'est rien. L'amour prend la vérité et se sacrifie pour elle, pour le bien puis le péché des autres. C'est ça que ça donne comme puissance à la vérité, l'amour. Ça va jusqu'au bout. C'est ce que Christ a fait. Christ est la vérité même. Mais il n'y a pas juste était comme ça pour faire des discours puis parler. Il s'est donné lui-même. Amen. Par amour. C'est ça la puissance de la vérité incarnée dans l'amour. Christ en est la parfaite démonstration de par son incarnation et son œuvre au calvaire. Et Jésus est venu dans un corps pour accomplir cette mission et nous sommes maintenant, en ce moment, son corps sur la terre pour continuer cette mission d'accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres en disant la vérité, en ne la compromettant pas, mais par amour accepter de payer le prix pour être fidèle à ce Dieu qui nous a tout donné, qui s'est donné lui-même pour nous. Et malheureusement, ce qu'on a vu, beaucoup ont échoué, se sont heurtés à Christ en 2020-2021. Pourquoi? Comme les Éphésiens, le problème, c'était pas la vérité, c'était pas de connaître la parole et tout ça. Voici c'était quoi le problème. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux, il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. C'est là qu'on a échoué, le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas tenu, parce que c'est au niveau de cet amour sacrificiel qu'on a manqué. C'est ça que sa provision nous donne. On a tout pleinement en lui, cette force divine de l'Esprit de Dieu, qui n'est pas un esprit de timidité, de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu l'a pourvu pleinement en son Fils Jésus-Christ. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'essayer plus fort, mais c'est de se confier en celui de qui découlent toutes les ressources infinies, de la force divine, de sa sagesse, de son amour, de sa vérité, de tout en lui. Ça m'amène à la troisième provision de Christ, la plénitude de notre intelligence. Non seulement la provision de sa sagesse, de sa force, mais dans Philippiens au chapitre 3, venez avec moi, on va regarder la provision de sa richesse. La provision de sa richesse, vous avez remarqué, tous ces mots-là, c'est ceux-là qui étaient dans le 9e chapitre de Jérémie. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, le fort de sa force, le riche de sa richesse. On a tout ça en Christ. Christ, la plénitude de notre richesse. On est dans Philippiens. On va lire juste quelques versets dans le chapitre 3. Commençons au verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ces versets, ils contrastent, si vous voulez, deux types de richesses. Paul avait, de par son passé, une richesse religieuse, une richesse de prestige, probablement aussi de l'argent, parce que, de par sa position et sa notoriété, il ne devait pas être dans la rue. Mais il a regardé tout ça comme une perte parce que il a trouvé la richesse de l'approbation de Dieu en Jésus-Christ, la vraie richesse, celle de le connaître, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ son Seigneur. Et ça même, il était prêt à tout perdre pour ça, puis il était même prêt, il acceptait la communion de ses souffrances. C'était tellement précieux qu'il était prêt à souffrir pour cette richesse infinie qu'il avait trouvée en son Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on a beaucoup à apprendre là-dessus, et je pense que Dieu nous apprend, mais quand je regarde des frères et sœurs du Venezuela, du Malawi, de l'Inde, de l'Afghanistan, tous des gens avec qui on est rentré en contact à travers notre famille missionnaire, eux autres sont très riches par rapport à des choses que nous, on est très pauvres. Ils n'ont pas grand-chose de ce que nous, on a au niveau des richesses de ce monde, mais ils sont riches en foi, sont riches en amour, sont riches en courage, sont riches en miséricorde. Puis, pour moi, quand je les vois, ça me fait penser à ce verset où est-ce que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Et l'ironie là-dedans, c'est que nous, on a été pris dans l'esclavage d'avoir les cœurs appesantis par les excès du manger et du boire. Alors que Dieu nous avait donné cette liberté d'avoir tous nos besoins pourvus selon la richesse de Dieu avec gloire en Jésus-Christ. Puis c'est nous qui sommes retrouvés les plus pauvres. Pourquoi? Parce que notre confiance a été dans ses richesses et non pas dans celui qui est notre richesse. Rien de mauvais avec les richesses, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est où est notre confiance? Merci Seigneur d'avoir envoyé ces épreuves qui nous font rendre compte c'est quoi la vraie richesse. N'est-ce pas que c'est une richesse de savoir les uns des autres, d'avoir une église où est-ce que Dieu est présent, puis il est là, puis d'avoir des frères et sœurs, d'avoir l'évangile éternel qu'on peut partager? C'est ça les vraies richesses. Et ici, on parle des Philippiens, dans le livre de Philippiens, mais je ne sais pas si vous savez, mais dans 2 Corinthiens, Paul donne en exemple les Macédoniens. D'après ce qu'on comprend du contexte, c'était les Philippiens, parce que Philippe était la première, je vais vous dire comment, la première ville d'un district de Macédoine, OK? Donc, je crois, parce qu'on voit, d'après les Philippiens, c'est une église qui donnait, il avait soutenu Paul en tant que missionnaire. Mais écoutez ce que ça nous dit sur eux, OK? Je veux juste ici donner l'exemple. Paul les cite en exemple, ces Philippiens-là, qui sont de la Macédoine. Écoutez ce que ça nous dit sur eux autres dans 2 Corinthiens chapitre 8, les 5 premiers versets. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. C'est peut-être pas juste, ça dit les églises. Fait, c'est plus que Philippe probablement, mais certainement que Philippe faisait partie de ça. Écoutez ce que ça dit. À travers la grande épreuve de leur affliction. Là, on pourrait dire, hey, là, grande épreuve de leur affliction, ils devaient tout avoir la bine à terre, ils devaient vraiment être découragés, puis se promener comme des gens qui ont tout perdu. Mais c'est pas ça que ça dit. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit, n'est-ce pas? Contradictoire, paradoxal, leur pauvreté profonde a produit avec abondance des riches libéralités. Parce qu'ils étaient riches en Dieu, ces gens-là. Et ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Wow, ça, c'est des gens qui comprenaient la richesse qu'ils avaient en Jésus-Christ, leur Seigneur. Comment Christ était la plénitude de leur richesse. Et si on a eu ça, un exemple de ça, ceux qui sont ici depuis longtemps, vous rappelez-vous quand M. Logan nous avait dit, OK, je l'ai dit tantôt, au Malawi, les gens, ils n'ont pas d'argent. OK, ils sont cassés comme des clous. Puis, M. Logan qui se promène, il va un peu partout dans le monde, puis il était au Malawi, puis il arrivait de l'Afghanistan. Puis, il racontait que là-bas, les gens prennent, de la bouse de vache, OK? Puis la font sécher comme ça, ils prennent la bouse de vache, puis ils mettent sur les murs, la font sécher, puis c'est du méthane, je crois. En tout cas, ils s'en servent comme combustible pour du combustible, de différentes façons qu'on peut s'en servir, probablement aussi faire cuire des choses. Les chrétiens du Malawi, entendent-tu, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on aide nos frères et sœurs de l'Afghanistan. Ils ont pris une offrande, eux, qui n'avaient quasiment rien. Ils ont pris puis ils ont donné une offrande pour leurs frères et sœurs de l'Afghanistan. Parce qu'ils étaient pressés par l'amour de Christ pour ces gens-là. Mes amis, c'est ça pour moi, des gens qui sont vraiment riches. On vit dans une société où est-ce qu'on fait un cas cheap de la richesse. La richesse, c'est pas avoir un compte en banque plein. La richesse, c'est ce que nos frères et sœurs du Malawi ont fait pour ceux de l'Afghanistan. Amen. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais par le cœur, touchés par leur situation, ils ont voulu comme ça faire une différence dans leur vie. Amen. Moi, c'est mes héros. Moi, c'est des gens que je veux imiter. Amen. Des gens, des bébés gâtés pourris, là, les vedettes de sport, tout, c'est gênant. Les jeunes, ils jamais des, c'est pas des héros, ça, c'est des grands bébés gâtés. Non, mais c'est vrai, on ne devrait jamais prendre du monde de main. Je veux dire, puis souvent, ils sont en plus, ils ont même rejeté tout ce qui est de Dieu, puis tout ça, puis n'aimerais pas des noms, mais il y en a un que, dans le domaine du basketball, ça fait tellement dur, il est super riche, puis tout, là. Je pense qu'il était dans une équipe de Cleveland, puis il est rendu à LA, ceux qui connaissent, là. Je veux dire, pauvre gars, je veux dire, ça fait pitié, puis pourtant, il est riche puis tout ça, mais il agit comme un grand bébé gâté. Puis c'est ça. On doit prier pour son salut. Je vais amener un point avant de terminer. Je viens de donner l'exemple des Macédoniens. Mais que Dieu puisse continuer à nous ouvrir les yeux sur la richesse que nous avons en Christ afin qu'on puisse rechercher à être riche en Dieu et pas tomber dans le piège nord-américain de ce que Jésus a référé dans Luc 12. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme se sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui seras-tu? Et ainsi il en est de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Je laisse l'application par elle-même se faire. Écoutez ce que ça dit dans Job au chapitre 39. Je veux terminer avec ça comme application finale. Parler de l'autruche. On apprend par les animaux. Et Dieu fait ça dans le livre de Job. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler.
Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Et elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève, elle prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Maintenant, écoutez le parallèle avec une autre situation dans la parole de Dieu. On a vu ça ensemble les mercredis soirs dans Lamentations, chapitre 4, verset 13. « Voici le fruit des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. » Je crois que l'explication spirituelle, biblique de tout ce qu'on vit depuis 2 ans, c'est littéralement le peuple de Dieu qui est détruit par manque de connaissance. Pas de connaissance de savoir les choses de la Bible, mais de connaître l'Éternel Dieu, le connaître réellement. Que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et c'est quoi qui nous a détruits? C'est qu'on a eu des belles églises avec des beaux petits murs, puis des belles décorations, puis des belles personnes speak and span, mais pas la vie de Christ. Puis on a passé à côté de l'essentiel. On a été comme des autruches, sans intelligence. Et ça montre l'urgent besoin de revenir à Christ, qui est notre sagesse, notre force et notre richesse, de revenir à ce verset tellement puissant. Vous connaissez 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, de complaisance, d'autosatisfaction, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Ça va avoir un effet national. La seule chose, la seule façon de retrouver l'intelligence biblique, c'est par la foi, c'est de retourner à celui qui est notre intelligence, celui qui nous donne tout pleinement en lui. Dieu est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Et je veux vous amener ce verset-là par rapport à peut-être votre situation spirituelle ce matin. Écoutez ce que ça dit dans Romains 1. Et certainement, c'est un portrait de notre société. Romains 1, 28 à 32. « Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Le peuple de Dieu a perdu l'intelligence spirituelle. Malheureusement, OK, ça ici, ça parle de gens qui ne connaissent pas Dieu, mais malheureusement, puis c'est le jugement sur notre société, mais le peuple de Dieu est tombé aussi là-dedans. Le peuple de Dieu est devenu sans affection naturelle, miséricorde. Ça fait dur là, quand on dit que tu ne peux pas rentrer. Mais imaginez-vous si on dit à nos frères et sœurs africains, « Ah, à cause de la couleur de votre peau, vous ne pouvez pas rentrer dans cette église. » Ça serait un scandale. Mais si on dit « Vous ne pouvez pas rentrer à cause de ce que vous avez accepté ou non de faire avec un traitement médical », ça, c'est correct. Je vous dis, ça n'a aucun bon sens. Il faut qu'on comprenne comment c'est grave, cette chose-là. Et donc, si vous êtes ici, puis que c'est ce qui vous décrit dans votre condition, peut-être que justement Dieu vous ouvre les yeux sur votre condition spirituelle, que vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez peut-être des parents qui aiment le Seigneur, qui vous présentent le Seigneur, mais vous ne le connaissez pas encore. Si c'est le cas, reconnaissez que votre situation n'a qu'une solution. Vous êtes perdu, vous êtes mort dans vos offenses et vos péchés. Il n'y en a un seul qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule façon d'être réconcilié avec Dieu, c'est par le sang de la croix. C'est par Christ qui est ressuscité, qui est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Et il n'y a pas de salut en aucun autre. Aucun autre nom n'a été donné sur le ciel par lequel nous pouvons être sauvés, mais par Jésus-Christ. Et si vous êtes un enfant de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu, voici sur quoi je vais terminer. Je vais terminer, on a parlé dans notre message aujourd'hui de Christ, la plénitude de notre intelligence. Si Christ est la plénitude de notre intelligence, si nous avons l'intelligence de le connaître, il n'y a donc aucune raison, et je devrais dire même aucune excuse, pour justifier de se mêler à la pensée déchue de ce monde. Et là, je vais être précis, la théologie de l'État qui dit que l'État dicte comment ça fonctionne dans l'Église de Jésus-Christ. Mes amis, il n'y a pas aucune place de ça dans la parole de Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Seigneur de cette Église, c'est pas une place vacante, elle est occupée par Jésus-Christ lui-même.
Amen.
Et c'est non négociable.
Amen.
Donc, pas de place pour ces pensées de théologie de l'État, de conformisme, de crainte des hommes, qui malheureusement, non seulement envahissent, mais détruisent trop d'églises, de familles chrétiennes et de milieux chrétiens. C'est incroyable ce qui arrive. C'est un jugement de Dieu sur son propre peuple. Voilà pourquoi je vous invite, chacun de vous, pour terminer, à venir dans la prière à celui qui a les ressources infinies de sa grâce en abondance. Et je termine avec ce verset-là avant de prier. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et la louange de Dieu.
Amen.
Merci Seigneur de ce que ta parole c'est la vérité, de ce que tu es le Dieu véritable et que le salut est en toi et en toi seul. Le salut pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on intercède pour eux ce matin. Si quelqu'un n'a pas encore Christ comme son sauveur, son Seigneur, aujourd'hui, que cette personne-là puisse passer de la mort à la vie. Et pour nous, ton peuple, Seigneur, nous désirons, nous te désirons. Oh, et Seigneur, brûle tous ces idoles, toutes ces tromperies dans nos cœurs qui nous égarent. Et que la simplicité qui est en Jésus-Christ, cette plénitude de la sagesse, la force et la richesse qui est en lui, ça soit juste suffisant, qu'on s'en réjouisse, que ça soit notre paix, ce qui nous unit ensemble, ce qui nous fait avancer contre vents et marées. Merci que nous avons tout pleinement en lui. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Si vous voulez en réponse...